Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
€40 de plus par an. En moyenne, votre facture d'électricité augmente à partir d'aujourd'hui si vous êtes soumis aux tarifs réglementés. Une inflation limitée à 4% grâce au bouclier tarifaire de l'État.
Les prix de l'électricité ont augmenté le 1er février. Une hausse attendue mais contenue en France. Partout en Europe, les gouvernements écument pour faire face à la flambée énergétique qui risque de plomber les comptes des ménages et des entreprises. Avec cette question, le système européen de l'électricité est-il encore assez efficient dans un contexte de prix élevés et de crise du gaz russe ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette crise énergétique qui embarrasse l'Europe et qui pourrait bien encore durer quelques temps.
Tous ceux qui peuvent faire des efforts doivent faire des efforts. On fera face à cette crise énergétique de manière collective.
Répondre collectivement à la crise énergétique. C'était le message début février de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invité d'Europe 1. C'est valable pour la France, mais c'est aussi valable pour l'Europe, qui s'est récemment déchirée sur le dossier de la taxonomie, le système de taxation de l'énergie au regard de ses ambitions climatiques. L'Europe a du mal à parler d'une seule voix en matière d'énergie. Pourtant, elle partage son électricité via un marché interconnecté.
Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité.
Fais-moi de l'électricité, chantait Joe Dassin en 1974. À l'époque, on craignait plutôt le pétrole cher. 50 ans plus tard, serait-on à l'orée d'une crise de l'électricité alors que la flambée du prix du kilowattheure agite la campagne électorale et gêne aux entournures l'exécutif et son bilan du pouvoir d'achat quinquennal. On a déjà parlé ensemble de la hausse de la facture électrique et des raisons de cette flambée entre météo peu favorable, tension sur le gaz russe et centrale en maintenance après 2 ans de pandémie. Mais un autre facteur est aujourd'hui pointé du doigt par le gouvernement, le marché européen de l'électricité, jugé obsolète et inflationniste. Bonjour Henrik Morera.
Bonjour Pierrick Fay.
Vous êtes journaliste au service entreprise des Échos. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce marché européen de l'électricité ?
Le marché européen de l'électricité, c'est deux choses. C'est d'abord un réseau de transport transfrontalier d'électrons entre les différents pays de l'Union européenne et même au-delà de l'Europe continentale. Ce réseau repose sur des interconnexions permettant d'échanger de l'électricité. À cela est couplé un marché boursier permettant aux producteurs de vendre de l'électricité et aux fournisseurs d'en acheter.
Comment est-ce qu'il fonctionne ?
Ce marché fonctionne autour de ce que les experts appellent le prix spot, c'est-à-dire le prix pour une livraison d'électricité du jour pour le lendemain. Ce prix est formé à partir du coût marginal de la dernière centrale appelée sur la plaque européenne. En plus clair, cela signifie que c'est le dernier outil de production d'électricité auquel on a besoin de faire appel qui décide du prix de l'électron. Pourquoi ? Parce que cela permet de s'assurer qu'il rentre dans ses coûts alors qu'on ne va faire appel à lui qu'en dernier recours, au moment qu'on appelle la pointe, souvent au plus fort de l'hiver. Pour la France, ce moyen de production, c'est généralement une centrale à gaz qui se situe le plus souvent en Allemagne. Les interconnexions permettent, elles, de faciliter les échanges d'électricité entre pays et de profiter de la complémentarité des moyens de production d'électricité à l'échelle européenne.
On parle ici de prix de gros, mais pour bien comprendre, on parle quand même de prix qui sont décidés parfois très en amont.
En effet, il existe plusieurs types de prix correspondant à différents produits d'électricité, c'est-à-dire de l'électricité livrable dans une semaine, un mois, un trimestre ou une année par exemple. Ces différents prix y suivent généralement le prix spot avec un effet d'anticipation de ce dernier. Producteurs et fournisseurs achètent et vendent de l'électricité sur ce marché de gros avec généralement plusieurs semaines, mois ou années d'avance quand ils le peuvent.
Ouais, c'est-à-dire que les prix de l'énergie, les prix de l'électricité sont, j'imagine, moins élevés en été et plus importants en hiver quand on a besoin de se chauffer. On en a déjà parlé, hein, mais c'était le souci d'ailleurs d'EDF aujourd'hui, qui a déjà vendu toute son électricité. Il doit acheter sur le marché les watts qu'il doit fournir à ses concurrents, hein, on en a parlé dans la story. Mais EDF a tout de même tiré parti de ce système et en tire parti en général.
C'est vrai que c'est le problème que rencontre l'électricien avec la mesure annoncée par le gouvernement afin de limiter la hausse de la facture d'électricité des Français. Pour se couvrir, comme on dit, EDF a l'habitude de vendre sa production avec généralement 1 ou 2 ans d'avance, de sorte que fin 2021... Bah, l'électricien français, il avait déjà vendu toute sa production. Mais si les prix de gros sont très hauts aujourd'hui, alors que EDF doit racheter ces fameux 20 TWh dont on avait déjà parlé dans la story, et qui devra livrer à ses concurrents à bas prix, ils étaient aussi très hauts en décembre, quand EDF a vendu sa production. Donc l'électricien a profité de la flambée des prix de gros sur le marché de l'électricité. Il a gagné beaucoup de sous en fin d'année dernière.
Pourquoi est-ce que le gouvernement accuse ce mécanisme européen de faire monter les prix ?
Ce que le gouvernement reproche au marché européen de l'électricité, c'est le couplage du prix entre le gaz et l'électricité. Comme je l'expliquais, le dernier moyen de production appelé pour assurer la pointe en France, c'est généralement une centrale à gaz. Or, les prix du gaz, ils ont explosé à cause notamment d'une très forte hausse de la demande chinoise et de stocks en berne. Et donc, mécaniquement, celui de l'électricité a grimpé. Ce qui peut sembler un peu injuste pour un pays comme la France où l'électricité d'origine nucléaire, elle est très abordable.
Oui, les prix flambent en raison de la situation en Ukraine, des tensions avec la Russie. Les Occidentaux menacent de ne plus acheter de gaz russe. C'est une situation heureusement exceptionnelle. Mais en temps normal, ce système ne permet-il pas justement de limiter les prix ?
La flambée des prix de l'énergie, elle a en effet plusieurs causes. Donc la situation en Ukraine et les tensions avec la Russie. Mais en temps normal, oui, le marché électrique européen, il a été conçu de telle sorte à limiter les prix de l'électricité. Il y a même eu une période de 2015 à 2018 où les prix étaient extrêmement bas, la faute à un réseau surdimensionné en raison de la croissance des énergies renouvelables, l'éolien terrestre, l'éolien maritime, le solaire, et du maintien de production d'origine fossile, du gaz, du charbon, voilà, des centrales qui n'avaient pas été fermées. Et ça a pénalisé par le passé les ventes d'EDF sur le marché. À ce moment-là, le prix a fortement chuté, le prix de l'électricité. Or, EDF était quand même obligé de vendre une partie de son électricité nucléaire aux concurrents qui, eux, se sont détournés de ce mécanisme et ont préféré s'approvisionner sur les marchés.
Mais quels sont les intérêts d'un tel système, au final ?
L'objectif principal du marché européen de l'électricité, c'est de faire en sorte que la sécurité d'approvisionnement cesse d'être une question nationale pour devenir un enjeu européen. Autrement dit, éviter les blackouts, c'est plus facile ensemble que chacun de son côté. Ensuite, grâce aux très nombreuses interconnexions entre les différents pays européens, ce système y favorise les échanges et multiplie les produits d'équilibrage pour éviter les instabilités sur le réseau. C'est essentiel pour un bien de première nécessité comme l'électricité, pour lequel il faut faire face à un double défi. D'abord, elle se stocke pas, ou très mal. Ensuite, le réseau doit en permanence faire correspondre l'offre à la demande, sans quoi il risque de s'effondrer. Enfin, grâce à cette optimisation de tous les moyens de production, on a pu fermer de nombreuses centrales fossiles en Europe.
Et c'est bon pour les objectifs climatiques que s'est fixé Bruxelles. On mesure effectivement les avantages de ce système. Et pourtant, on le disait, le gouvernement français le juge obsolète. Alors justement, que veut faire et que peut faire le gouvernement français ? Qu'est-ce qu'il propose ?
Le gouvernement français, lui, il souhaite que le prix de gros de l'électricité en France ne soit pas corrélé à celui du gaz, comme on le disait un peu plus tôt. Le ministère de l'économie aimerait que ce tarif traduise l'avantage compétitif du parc de réacteurs nucléaires historiques. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le prix de l'électricité reflète le coût de production du mix énergétique de chaque pays, expliqué encore récemment Bercy. Seulement voilà, pour les experts, cela existe déjà, grâce à un mécanisme au nom barbare, l'AREN, le fameux accès régulé à l'électricité nucléaire historique. On entend par là l'électricité produite à partir du parc nucléaire qui a été construit quand EDF était en situation de monopole d'État dans les années 70, 80, 90. Ce mécanisme, il oblige l'électricien français à vendre une partie de sa production, un quart environ, à ses concurrents, les fournisseurs alternatifs. et le tout à un tarif très compétitif. Ces fournisseurs répercutent ensuite dans leur facture cet approvisionnement à bas coût, ce qui fait dire à certains que ce mécanisme permet en réalité à tous les consommateurs français de s'approvisionner en partie au coût de la production du nucléaire historique.
Oui, effectivement, la facture est souvent moins élevée en France que dans d'autres pays européens. L'enjeu pour EDF, et surtout pour ses concurrents, c'est la fin prévisible en 2025 justement de l'ARENH, cet accès régulé à l'électricité nucléaire.
Exactement. La question maintenant, c'est comment faire après cette ARENH pour que les Français puissent bénéficier de cet avantage compétitif qu'offre le pacte nucléaire historique depuis longtemps amorti, tout en ayant la possibilité de souscrire à une offre d'un concurrent d'EDF comme l'impose l'Union européenne. Dans tous les cas, il faudra de toute façon réévaluer le niveau de ce nucléaire historique, aujourd'hui vendu à 42 € du mégawattheure et à 46,2 € du mégawattheure pour les 20 TWh supplémentaires que EDF va devoir fournir à ses concurrents. Quand on voit que les prix de marché actuellement sont autour de 200-250 € du mégawattheure, on comprend qu'il y a effectivement un décalage. Dans tous les cas, ce prix de nucléaire historique ne reflète pas les coûts de production de l'électricité nucléaire, surtout avec des centrales vieillissantes et dont mécaniquement le coût d'entretien grimpe. Il va également falloir prendre en compte la manière dont la France et EDF vont devoir investir dans un nouveau parc nucléaire, un investissement obligatoire si on veut répondre à la consommation de plus en plus importante d'électricité à venir dans le futur, tout en tenant notre engagement d'un mix énergétique décarboné à horizon 2050.
La crise énergétique rencontrée par l'Europe amène donc les États à s'interroger sur leur système de fixation des prix, alors même que les exigences en matière de lutte contre le réchauffement climatique provoquent une remise en question des sources d'énergie, que ce soit le nucléaire, peu émetteur de CO2, ou les énergies fossiles, qui le sont beaucoup plus nettement. En attendant, l'Europe a abordé l'hiver 2021-2022 avec un déficit énergétique, facteur de hausse des prix et de tension pour le pouvoir d'achat des ménages. Pour discuter de ces enjeux, j'ai appelé Régis Béguet. Il est directeur de la gestion Action chez Lazard Frères Gestion et spécialiste des questions énergétiques. Je lui ai d'abord demandé s'il rejoignait le gouvernement français dans le constat que le système européen d'électricité marche mal.
Il faut rappeler qu'on a des interconnexions partout en Europe. Il faut rappeler aussi que la France, qui est exportatrice nette sur une année, eh bien, est importatrice à de nombreux moments de l'année, certains jours entiers, certaines heures, certains pics. Et donc, cette interconnexion, elle est absolument indispensable pour faire fonctionner et pour stabiliser le système électrique français. Si on n'était pas interconnecté, il faudrait quand même réinvestir assez profondément en France pour avoir des capacités supérieures pour ces moments de pic. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le marché européen est fondé sur le merit order. Ce merit order fait appeler l'électricité la moins chère d'abord, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Et en période de pic, eh bien, c'est l'électricité la plus chère qui est appelée. Et l'électricité la plus chère, avec le fonctionnement du marché tel qu'il est aujourd'hui et avec le prix du CO2, eh bien, c'est le gaz ou le charbon. Et donc, ça renchérit, eh bien, l'ensemble de la production d'électricité sur le prix le plus élevé à l'instant T. Effectivement, c'est un fonctionnement qui a été voulu de cette façon. Il a été voulu pour favoriser les énergies les moins chères et dissuader d'utiliser les énergies les plus chères. Mais effectivement, il permet très mal d'amortir, eh bien, l'ensemble du parc de production.
Mais certains constatent aussi que c'est un système qui ne favorise pas la puissance et donc les investissements.
C'est tout à fait juste. Il ne favorise pas les investissements puisqu'il favorise à chaque instant l'énergie la moins chère. Et l'énergie la moins chère ne correspond pas nécessairement à chaque instant aux plus gros investissements. Et par conséquent, pour de petits investissements, vous pouvez délivrer de l'énergie peu chère mais peu disponible, hein, c'est le problème des énergies intermittentes et des énergies renouvelables. Et en revanche, quand vous devez investir dans un parc nucléaire, notamment, évidemment, ce parc nucléaire, il va se trouver à certains moments être l'énergie la moins chère, donc il va être favorisé à ce moment-là, mais pas tout au long de la période. Et donc, vous avez également une volatilité induite par ces prix de marché qui rendent l'investissement extrêmement difficile.
L'énergie, c'est un enjeu politique important dans cette campagne électorale qui démarre en France, mais c'est aussi un enjeu européen, comme en témoigne la querelle franco-allemande sur le nucléaire et le gaz comme énergie verte.
Bien entendu, c'est un enjeu très profond, un débat très profond entre les Français et les Allemands qui ne pourra pas véritablement être résolu, les Allemands étant viscéralement anti-nucléaires, même si dans l'histoire ils étaient parvenus à malgré tout construire un parc nucléaire, ils sont finalement naturellement sortis de ce nucléaire tout en restant dépendants du nucléaire français. Réciproquement, les Français sont viscéralement pour leur indépendance énergétique et donc pour le nucléaire, justifiant de manière réelle que c'est le moyen de produire de l'énergie qui émet le moins de CO2, mais les rendant aussi dépendants aux Allemands dans les périodes de pic, comme je l'expliquais, et donc indirectement dépendants du gaz russe, ce qui est une frontière que les Français ne veulent pas choisir. Et c'est tout le problème de ce marché européen unifié dont on parlait, c'est qu'on a un marché européen unifié, totalement interconnecté, avec un prix qui est quasiment unique, ou en tout cas des prix qui sont extrêmement corrélés d'un pays à l'autre, et derrière des politiques énergétiques qui sont radicalement différentes. Et c'est en cela que le système effectivement dysfonctionne, c'est que vous avez une unicité de prix et d'interconnexion, et des politiques à court terme et à long terme totalement différente d'un pays à l'autre. Il n'y a pas un pays qui soit d'accord avec son voisin sur le mix énergétique.
Comment est-ce que vous voyez évoluer les prix de l'électricité dans les prochains mois? Certains faisaient même une comparaison entre la situation actuelle et le choc pétrolier de 1973.
Absolument, c'est un choc d'une ampleur qui est aujourd'hui sous-estimé, précisément parce que les États, pour l'instant, ont fait le tampon entre les prix de marché et les prix effectivement pratiqués pour le consommateur final. On a vu, ça a commencé en Espagne. En Espagne, il y a eu un certain nombre de réductions de cas, de taxes, de TVA, à l'inverse de nouvelles taxes sur les profits des utilities, etc. Donc, on a eu en Espagne tout un tas de mesures qui sont apparues dès l'automne. Et puis, enfin, en France, cette mesure très spectaculaire de la fin d'année. Ce qui fait que pour tout un chacun, le choc est passé relativement inaperçu. Pour autant, il est loin d'être résolu, puisque même si on a beaucoup baissé par rapport au prix de fin d'année 2021, qui étaient des prix complètement fous, même si on a beaucoup baissé, on est encore entre 2 et 3 fois la moyenne des prix des 20 dernières années. Et donc, si ce prix était totalement répercuté sur les ménages, eh bien, ce serait un choc absolument insurmontable. Et donc, on est face à une situation qui est relativement inextricable, même si cette année est très particulière, puisque cette année, on a une très faible disponibilité du parc nucléaire français, donc historique. On aura la plus faible production nucléaire en 2022 depuis 30 ans. On va rejoindre le niveau de production nucléaire de 1992. Et ça devrait quand même s'améliorer dans les années qui suivent. Et puis, on a eu cette pénurie de gaz qu'on a vu arriver dès l'été. On a vu que les cuves de gaz en Europe étaient à peu près vides dans de nombreux pays. Et donc, dès la fin de l'été, on a compris qu'on aurait une crise majeure en hiver, et effectivement elle s'est produite, elle est toujours en cours, et on a toujours le sujet du gaz, puisqu'on a toujours le sujet avec la Russie et avec la Chine. N'oublions pas que à l'origine de cette pénurie de gaz, il y a effectivement des aspects un peu géopolitiques qu'on met beaucoup en avant, mais il y a aussi la Chine qui a décidé de réduire sa dépendance au charbon, et qui se trouve donc être devenue un très gros importateur de gaz, beaucoup plus gros qu'elle ne l'était avant.
Faut-il prendre au sérieux les menaces de la Russie qui parle de nous couper le gaz? Patrick Sauce est avec nous. D'abord, à quel point est-ce qu'on est dépendant? On est très 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 dépendant.
Alors, les Européens sont évidemment très dépendants du gaz russe.
L'Europe dépendante du gaz russe, c'est ce qu'on peut entendre sur le plateau de BFM. Les tensions à l'est de l'Europe avec Moscou sont très fortes depuis quelques mois. On en vient forcément à se poser la question, que se passerait-il en cas d'invasion de l'Ukraine par les forces russes?
Pas grand-chose à court terme, parce que les importations nettes de gaz en provenance de Russie actuellement sont nulles. Les robinets sont fermés, et ce, depuis de nombreux mois. Il y a eu quelques ouvertures, mais globalement, c'est une des raisons déjà pour lesquels nous n'avons plus de gaz. Donc, de ce point de vue, à court terme, la situation ne se détériorerait pas par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais dans la durée, évidemment, c'est un problème. C'est un problème essentiellement qui est un problème d'investissement, hein, parce que il faut quand même avoir en tête que le gaz est très disponible, que l'Europe est entourée de sources de gaz potentielles en provenance d'Algérie, en provenance du Qatar par le biais du LNG, en provenance d'Europe du Nord. Et puis, on a même la capacité, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs en fin d'année dernière, à importer du gaz américain. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de nécessité absolue sur le plan physique d'être dépendant du gaz russe. En revanche, évidemment, cela suppose de nouveaux investissements de très grande ampleur. Donc, on est dans une affaire de temps et d'argent qui est loin d'être résolue à ce stade.
Merci Régis Béguet, directeur de la gestion action chez Lazard Frères Gestion, et merci Henrik Morera, journaliste au service entreprise des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.